France Musique.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Guitare Guitare. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi consacré à la guitare, à la grande famille des cordes pincées. Notre émission du jour est consacrée à un musicien au parcours aussi labyrinthique que passionnant. Sa vie guitaristique a débuté par le flamenco, il a bifurqué ensuite vers la guitare classique espagnole grâce notamment à sa rencontre avec Alberto Ponce. Puis il s'est aventuré ensuite dans la musique d'avant-garde en collaborant avec de nombreux compositeurs pour créer des œuvres de musique nouvelle, la plus emblématique étant certainement Tellure de Tristan Murail dont on vous a déjà parlé dans cette émission. Il participe à la renaissance du répertoire pour guitare baroque, son intégrale de l'œuvre de Robert de Vizet reste une référence du genre. Aujourd'hui il écrit des livres, des essais, des témoignages et autres romans musicologiques et publie sur sa chaîne YouTube ses propres masterclass. Et si vous voulez vous imprégner de cet esprit d'aventure et de culture de la guitare espagnole qu'il incarne si bien, vous pouvez toujours intégrer sa classe à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris. Il s'agit bien sûr de Raphaël Andia, nous avons la chance de l'avoir dans nos studios. Nous parlerons avec lui en deuxième partie d'émission et nous l'écouterons jouer en live une de ses dernières trouvailles sur sa guitare baroque.
Thank you.
La Passacaglia en sol mineur de Francesco Corbetta, jouée par Rolf Lislevin, était précédée de la Mascarade de Robert de Vizé, jouée par Raphaël Andia. Un extrait de l'intégrale de l'œuvre pour guitare consacrée à ce compositeur et enregistrée pour le label Harmonia Mundi. Corbetta est d'ailleurs le sujet du dernier livre que Raphaël Andia a publié aux éditions L'Harmattan et qui est intitulé Guitare royale. Il s'est inspiré des quelques rares éléments biographiques connus de la vie de ce guitariste du XVIIe siècle pour le réinventer et mettre en scène sa vie de voyage et sa personnalité. C'est un récit à la croisée de la fiction et de l'hypothèse musicologique. C'est tout à fait captivant. Ça donne beaucoup de matière à réflexion. Nous en parlerons avec lui à la fin de cette émission. Thank you. transcrire est un autre aspect essentiel du travail de Raphaël Andia. Nous l'écoutions à l'instant jouer sa propre transcription de Torre Bermeja d'Isaac Albéniz, une pièce initialement écrite pour le piano. Il nous en propose ici une version qui est encore plus vraie que nature à la guitare et qui s'approche au plus près de l'esprit et de la lettre. D'ailleurs, entre l'esprit et la lettre, Raphaël Andia choisit tout simplement les deux. Il met en lumière toutes les complexités des différents textes qu'il interprète, on vient de l'entendre avec Albéniz, mais il sait également lire entre les lignes et faire vivre une musique dont la notation pourrait sembler relativement simple en l'agrémentant d'ornementation et d'enrichissement adéquat. Thank you. Vous êtes bien sur les ondes de France Musique et dans Guitare Guitare, nous écoutions une sonate numéro 12 de Paganini jouée par Pavel Stedel, pleine d'esprit et d'invention que ne reniera pas, je pense, notre invité du jour, Raphaël Andia. Sur une partition assez dépouillée d'indications, Pavel Stedel varie les modes de jeu, improvise des variations, des ornementations et la guitare retrouve un naturel et une éloquence qu'elle n'aurait certainement pas en respectant trop scolairement le texte. Le son du flamenco de Nino Ricardo pour accueillir notre invité. Bonjour Raphaël Andia.
Bonjour Sébastien.
C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors quand on s'intéresse un peu à votre parcours, on est frappé de la variété des styles que vous abordez, avec pour chacun un certain jusqu'au boutisme. D'où vient cette énergie et cette volonté de sans cesse vous renouveler, de sortir des sentiers battus et faire toujours du nouveau?
Eh bien, je vais vous parler franchement. Je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit, mais quand je suis passé de la guitare flamenca à la guitare classique, j'avais 24 ans, et je trouvais le classique le comble du fadas. Ça manquait totalement de l'énergie et de l'élan vital du flamenco. Une grande partie de ce constat, c'était que c'était de la musique de salon. Néanmoins, j'aspirais à cette époque à plus de rigueur et de construction formelle dans la musique, ce qui manquait au flamenco. Et j'admirais la science de la composition classique. J'étais ébloui par, évidemment, les grands auteurs. Je me suis donc investi dans un monde certainement plus riche, mais néanmoins très ronronnant en ce qui concerne la guitare classique. Et je ressentais qu'à la marge, il y avait plein d'autres choses à faire. Et puis, il y a eu Tristan Murail, sûrement, qui m'a aidé à me tirer de cet assoupissement musical. Mais du nouveau, de l'original, c'est l'avenir qui dira si j'en ai produit réellement.
Je pense que vous en avez produit. Alors, quelle que soit l'esthétique abordée, votre guitare s'oriente toujours vers les modes de jeu naturels, les modes de jeu qui font sonner vraiment la guitare à plein régime. Est-ce que ça a aussi un lien, ça, avec les débuts de flamenquiste que vous avez eus?
Ben oui, là encore, en fait, le guitariste flamenco est l'héritier d'un langage qui semble a priori déterminé, hein, la musique andalouse, mais il jouit d'une géniale liberté d'écriture au moment de l'inscrire dans l'instrument. Sa gestuelle est spontanée, ses gestes sont spontanés, et ils n'obéissent à rien d'autre qu'à l'organisation interne propre et naturelle à la guitare. Le guitariste classique, lui, doit aussi se soumettre à des langages, mais cette fois, c'est ceci qui détermine l'organisation de l'instrument afin de s'y inscrire. La gestuelle du guitariste classique est donc l'esclave d'un déterminisme imposé de l'extérieur. Il court après une chimère, voire après l'impossible, souvent. Ses gestes sont forcés, sa sonorité asphyxiée. Quand je suis arrivé dans ce monde du classique, je voyais que les guitaristes n'utilisaient pas toutes les ressources, toutes les possibilités du flamenco, les possibilités flamboyantes et vibrantes qu'offre la guitare par elle-même, et dont usent et abusent les flamenquistes, évidemment. Le flamenquiste, lui, crée sa musique à partir de ses propres gestes. Le classique force sa technique au service d'une musique préexistante. Mais je crois qu'on peut dire exactement la même chose pour Django Reinhardt, il me semble. Bien que je connaisse pas trop ce sujet.
Alors, quand on vous écoute jouer de la guitare baroque, on entend une sonorité particulière, un jeu avec une identité très forte. Vous portez quel regard sur l'évolution de l'interprétation historique aujourd'hui ?
Je dois avouer que les vrais baroques, ce que vous appelez souvent les baroqueux sur cette antenne, les vrais baroques,
pas du tout,
au cours de ma vie, ne m'ont jamais accepté comme étant des leurs. Un vrai, quoi. Et je crois qu'ils ont eu bien raison. Ils ont eu bien raison parce que je me suis investi dans la guitare espagnole du XVIIe siècle, en même temps que dans le classique, quand j'avais donc 24 ans, en venant du flamenco. Et ce que je voulais, c'était jeter un pont entre ces deux espaces temporels et tracer des lignes dans l'évolution de la guitare. Un fil qui relierait Gaspar Sanz et Nino Ricardo, justement, le fameux Nino Ricardo. Moi, j'y croyais, j'étais plein d'enthousiasme. La seule chose qui m'intéressait finalement dans la guitare, c'était sa permanence historique qui lui donne, je crois, sa pertinence, sa raison d'être, quoi. D'où le travail que j'ai fait sur la guitare baroque. Il était orienté.
Alors, vous composez également pour votre instrument. On peut écouter certaines de vos pièces en fouillant dans votre discographie ou sur YouTube. Vous êtes quel genre de compositeur ? Ça a quel rôle cette activité pour vous ?
Ben justement, dans la logique de ce que je viens de dire un peu avant, moi j'ai voulu concilier la liberté des flamenquistes et la priorité donnée au son, dont ils font un grand usage, et dont je viens de parler, concilier cette liberté avec des constructions plus travaillées, plus élaborées que celles qu'on trouve dans le flamenco, qui, il faut bien le dire, sont assez sommaires au niveau de la construction des pièces. C'est-à-dire, je voulais fromage et dessert. Ce que je ne trouvais pas vraiment beaucoup dans le répertoire ordinaire de la guitare classique, sauf dans Villa-Lobos ou dans Leo Brouwer, par exemple.
Je l'ai déjà évoqué un peu pendant l'émission. Depuis quelques années, il y a une nouvelle activité qui s'est invitée dans votre vie. Vous écrivez et publiez maintenant des livres. Alors, est-ce que la fiction aide à s'approcher plus efficacement d'une certaine vérité ?
En fait, j'ai commencé par deux livres qui n'étaient pas de la fiction. J'ai publié un essai sur le problème de la liberté à la guitare, dont je viens de parler un petit peu aussi. Ensuite, un témoignage sur ce que j'ai vu à Paris de vie musicale pendant les 50 dernières années du siècle XX. Ensuite, j'ai été piqué un peu par le virus de la fiction, c'est vrai. Et tout d'abord, j'ai publié un livre afin de pouvoir parler d'un sujet trop personnel, trop douloureux, pour être évoqué froidement dans un récit un peu autobiographique à la première personne, quoi. La guerre d'Espagne, l'exil de mes parents, la vie d'une famille de réfugiés politiques en France. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commis un quatrième livre là pour m'amuser un peu, me lâcher, et pour recréer ce que je crois être la vie d'un guitariste italien du XVIIe siècle, Corbetta, le fameux Corbetta qui a enseigné Louis XIV, et sur lequel j'avais rêvassé et fantasmé en jouant sa musique pendant 50 ans, la guitare baroque à la main, et cette fameuse guitare royale qui a donné le titre de mon roman,
livre.
Voilà, sur le un peu picaresque.
Alors vous avez porté avec vous votre guitare baroque, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous allez maintenant nous jouer ?
Je vais vous jouer une passacaglia en italien, de Granata. Et je l'ai choisi un peu dans un souci d'ironie, puisque dans le roman que j'ai publié de Corbetta, Corbetta et Granata étaient des ennemis féroces. Et dans la vraie vie, hein, c'est pas une invention de moi, ils étaient à couteau tiré, ils se volaient leurs œuvres, ils se volaient leurs mécènes. Et dans le roman, je les ai fait même se battre en duel. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça aurait pu, parce que c'était un peu l'époque qu'ils voulaient, hein. Il n'y a pas que les trois mousquetaires. Et donc, j'ai voulu m'amuser un petit peu. Thank you.
La Passacaille de Granada, jouée par Raphaël Andia dans le studio 361 de France Musique. Merci à Lucas Derode pour la prise de son, à Patrick Lérissé, Jean-René Bonissant de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Merci également à vous tous d'être fidèles et chaque semaine plus nombreux à l'écoute de Guitare Guitare. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de l'univers labyrinthique de Raphaël Andia, cliquez sur la page Guitare Guitare du site francemusique.fr. Nous vous indiquerons tous les liens dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous écrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Il est maintenant 13h, l'heure d'écouter Thierry Jousse.
À réécouter sur francemusique.fr.